Et c'est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, alors il y a toute une liste, et notamment, ils seront déloyaux. Déloyaux. Et c'est certain que l'infidélité se répand à notre époque. Et que ce qui était déjà écrit autrefois est encore plus vrai pour nous. La fidélité se raréfie. Mais pourtant, c'est la caractéristique du chrétien. Amen. Alors on va le lire ça dans Colossiens, chapitre 1er, verset 2, si vous voulez bien. Colossiens, chapitre 1er, verset 2. On va lire au verset 1er peut-être pour ne pas couper la phrase. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Les chrétiens sont appelés des fidèles. Amen. Autrefois, on disait, combien est-il de fidèles dans votre assemblée? Eh oui, les chrétiens, ce sont des saints et des fidèles. Et qui appartiennent dans cette fidélité, pas seulement à Jésus-Christ, mais qui sont à Colosse. Et remarquez ce qui est écrit, fidèles frères en Christ, d'abord en Christ, mais pas seulement dans l'Église, qui sont à Colosse, et pour vous, qui sont à Aubagne. Être fidèle, c'est être fidèle à Jésus-Christ et à son Église locale, et pas à l'Église universelle. Parce que l'Église universelle, on a tout dit, on n'a rien dit. Nous devons comprendre que notre fidélité va se prouver dans le cadre de l'Église locale. Non pas seulement l'Église régionale, parce que c'est une habitude qui se multiplie des chrétiens qui vont d'église en église, dans la même région. Ah, ce dimanche, je vais où? Ah ben, je vais là. L'autre dimanche, ben, je vais aller là-bas. Parfois, parce que c'est plus commode. C'est sur la route de la famille. Ça va nous rapprocher. Ou d'autres fois, tout simplement pour changer. Parce que nous sommes dans une génération du changement qui ne sait plus se concentrer, s'arrêter. Mais il faut sans cesse de la nouveauté pour continuer, pour marcher. En réalité, c'est quand même un manque de fidélité. Être fidèle, c'est différent d'être membre d'une église. Vous êtes peut-être membre de l'assemblée, inscrit sur les registres. Mais êtes-vous fidèle? C'est autre chose. On peut être un membre officiel d'une église sans manifester beaucoup de fidélité envers Jésus-Christ et son église locale. Pire encore, ça descend tellement bas que récemment, un pasteur, dans un certain contexte, a pu expliquer que ce qui comptait aujourd'hui, ce n'était pas le nombre de membres dans une église, mais le nombre de participants. Il y a des assemblées qui réunissent parfois des centaines de personnes. Mais si l'on y regarde de plus près, il n'y a plus que quelques dizaines de membres. Et le reste, ça vient de où? On appelle ça du turnover. Ça circule. Les évangéliques qui vont d'église en église ou qui pour un temps, pendant 2, 3, 4 ans, il y a eu une étude d'un sociologue qui a prouvé que dans certaines grosses méga-churches, l'auditoire était très mouvant. Et seule une poignée, quelques dizaines sur ces centaines, étaient vraiment membres de l'Église. Alors fidèle, c'est pas pareil que membre, et c'est encore pas du tout la même chose que seulement participant. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Un participant ? Électron libre ? Vous serez parmi nous aujourd'hui, mais demain vous verrez bien. Êtes-vous un membre officiel ? Mais soutenez-vous l'Église locale ? Ou êtes-vous un fidèle ? Sur qui le Seigneur peut compter ? Amen. Il y avait un cantique, « Dieu peut-il compter sur nous ?» Le pourra-t-il jusqu'au bout ? Ah, nous pouvons compter sur le Seigneur. Amen. Mais est-ce que le Seigneur peut compter sur toi ? Alors voyons maintenant l'exemple des apôtres. Dans Luc, chapitre 22, verset 28, s'il vous plaît. À chaque fois que nous verrons quelque chose à partager, il sera bon de l'étayer par l'Écriture et de lire la parole. Je crois fermement que la vie chrétienne est bâtie sur la parole de Dieu et que si elle n'est pas fondée sur l'Écriture, elle ne sera pas solide. Luc chapitre 22, verset 28, voilà ce qui est dit. Vous, c'est Jésus qui s'adresse à ses apôtres, vous avez été ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alors, il y a la suite. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Amen. Et vu, la fidélité est récompensée par le Seigneur Jésus. Pourquoi les apôtres ont eu ce ministère dans les actes des apôtres ? Pourquoi même les apôtres ont eu cet insigne honneur de fixer la doctrine chrétienne, c'est tout le Nouveau Testament ? Eh bien, parce que tout simplement, ils sont restés fidèles à Jésus pendant ces 3 années et demie de ministère terrestre. Jésus leur dit, vous avez été avec moi dans mes épreuves. Vous avez fait vos preuves. Alors c'est pour cela que maintenant, je vous donne le royaume. Vous pourriez me dire, oui, mais être avec le Seigneur Jésus, c'était plus facile. Détrompez-vous. Le Seigneur Jésus a eu une période de popularité dans son ministère terrestre, mais il a eu une grande période d'adversité. L'évangile, selon Jean, est celui qui le montre le plus, d'ailleurs. Parfois, il y avait une tension. La foule réagissait. Et même des siens, des disciples à lui, partaient. Ses paroles sont dures, qui pourrait les écouter ? Et là, à ce moment-là, Jésus se retourne vers les apôtres et vous ne voulez pas partir non plus ? Et Pierre a cette réponse magistrale, « Seigneur, vers quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia ! Alors que dans ce moment-là, ils partaient tous, eux sont restés. Ils ont été fidèles. Ce n'était pas facile de rester fidèle à Jésus quand il était sur la terre. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas su jusqu'au bout, puisqu'ils l'ont tous abandonné. Le berger a été frappé, les brebis dispersées, mais heureusement, Jésus avait prié pour eux. Alléluia. Non, être fidèle au Seigneur, ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, les apôtres ont prouvé leur fidélité, sauf jusqu'à la croix, parce qu'il fallait que les prophéties aussi s'accomplissent, bien évidemment. Alors, je voudrais vous le dire, ce à quoi le Seigneur vous appelle, c'est de faire vos preuves en étant fidèles tout au long de votre vie chrétienne, comme les apôtres l'ont été. Parfois, on se dit, waouh, les martyrs chrétiens, chapeau, on n'y arriverait jamais de mourir pour le Seigneur comme cela. Oh, c'est vrai que c'est une belle mort que de mourir pour la cause de Jésus-Christ, et ça a une grande valeur. Mais il me plaît aussi à penser que c'est très difficile de vivre aussi pour Christ pendant 50 ans, pendant 60 ans. Parce qu'il y a des gens ici qui sont fidèles au Seigneur depuis des dizaines d'années. Et ça, ça a une grande valeur. Et il me semble que quand ils se retrouveront avec le Seigneur, le Seigneur pourra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Voyons maintenant quelques mots sur la fidélité conjugale. Il faut en parler. dans la fidélité chrétienne, il y a la fidélité conjugale. Nous sommes dans un monde rempli de débauches et d'adultères, où il y a des maîtresses, des amants, où nous vivons dans la fange de ce monde, où nous côtoyons une immoralité semblable à celle de Sodome et de Gomorre. Mais il ne faut pas que dans l'Église, ces choses soient même nommées parmi nous. Amen. Alors lisons un texte dans Matthieu chapitre 19, versets 1 à 12. Que c'est beau de vivre toute sa vie avec la même épouse, avec le même époux. Amen. Et d'ailleurs, les gens du monde nous disent, avec la même femme, vous avez eu 4 enfants. Ils nous disent, ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Comment vous avez fait? Ils sont quand même émerveillés. Matthieu chapitre 19, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, ah, pour l'éprouver, il n'avait pas un bon état d'esprit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Vous savez, on peut toujours utiliser la Bible parfois pour se justifier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire que pour Dieu, on n'aura toujours qu'une seule femme. Et si on va avec une autre, même légalement, c'est un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez comment des fois les mâles réfléchissent. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques, c'est-à-dire nous les chrétiens, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Dans ce passage, bien, le Seigneur nous ramène à la volonté originelle de Dieu, et non pas la volonté permissive de la loi de Moïse. La loi de Moïse a pris en compte la dureté du cœur humain, mais dès l'origine, le plan de Dieu, c'était qu'un homme et une femme s'aiment pour toute la vie et s'attachent au long des ans. Amen. Et dans la société d'aujourd'hui, il faut le dire et le proclamer dans l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La banalisation de l'adultère, la banalisation du divorce ne doit pas influencer l'Église pour que cela devienne normal. C'est normal pour le monde, c'est anormal pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont des fidèles. Et leur fidélité est envers Christ, l'Église locale et leur épouse ou leur époux. Amen. Alors, je crois que le mariage est un engagement sacré que nous ne pouvons rompre, sauf dans des cas d'exception, comme le Seigneur l'a souligné dans ce passage. Mais ne faisons pas de l'exception une généralité. Alors, je voudrais quand même vous dire que le mariage est voulu de Dieu pour y vivre l'amour. Amen. Et pas la contrainte et l'obligation. Les gens nous disent, oui, mais vous, vous restez mariés parce que vous êtes obligés. Vous êtes chrétien, alors vous êtes obligés. Je voudrais vous dire, je suis pas marié avec ma femme parce que je suis obligé. Mais parce que nous, chrétiens, nous aimons notre femme. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Amen. Alors, vous me direz, aimer tout au long de la vie, c'est possible? C'est impossible. Si on n'a pas une relation avec Dieu. Si on ne connaît pas l'amour de Jésus-Christ qui nous est renouvelé par le Saint-Esprit. Il y a des moments difficiles dans le couple, peut-être vous en traversez, peut-être ce matin, tandis que je vous en parle, vous êtes concernés, parce que vous êtes peut-être tentés d'en finir et de vous séparer. Ne faites jamais ça, parce que vous sortirez du plan de Dieu. Et il vaut mieux parfois avoir une vie plus difficile dans le plan de Dieu qu'une vie facilitée en dehors de l'approbation de Dieu. Et puis aussi, je sais que nous sommes une génération où quand ça va pas, on passe à autre chose, mais la fidélité, c'est d'apprendre dans la vie qu'il y a des crises, des moments difficiles qu'il faut traverser avec la grâce de Dieu. Un couple chrétien, je ne vais pas dire que c'est tous les jours rose et formidable. Je peux dire que dans un couple chrétien, il peut y avoir des moments très difficiles, des tentations. Et comme par hasard, dans ces moments-là, un gars, une fille passe par là, rôde. Et l'adversaire, le tentateur, voudrait faire chuter des chrétiens, des chrétiennes. Mais prenez courage, soyez fidèles. Et vous passerez les moments difficiles. Et ce sera mieux après. Mieux après. C'est tellement dommage de ne pas avoir permis des fois au Seigneur de faire son œuvre, parce qu'on a voulu des fois prendre un autre chemin. Voudriez-vous apprendre cette fidélité conjugale? Amen. Dans le cadre de votre couple, nous nous sommes promis, alors devant monsieur le maire ou madame la maire, non, je pense pas, nous nous sommes promis devant Dieu que même quand ça irait mal, on ne se trahirait pas, on ne s'abandonnerait pas. Et je voudrais peut-être vous dire quelque chose. Vous ne vous êtes peut-être pas trompé. Hein. C'est peut-être le bon mari ou la bonne épouse. Amen. Parce que des fois, on se dit, oh, c'est pas possible. Hein. Il y a une erreur quelque part. Mais non. Moi, je crois que Dieu a été souverain dans notre vie. Et qu'il a conduit nos vies. C'est vrai que des fois, il nous faut du temps pour le comprendre. Et on se fait du mal inutilement. Mais après tout, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas de savoir si c'était le plan de Dieu ou pas le plan de Dieu, parce que nous, on est des spécialistes avec ça. Ah, est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que c'était le plan de Dieu? Mais aujourd'hui, le plan de Dieu, c'est de s'aimer, d'être fidèle et d'apprendre, d'avancer ensemble. Amen. Pourquoi perdre son temps à savoir si on a raté le plan de Dieu hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, alors que ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Amen. Passons maintenant à un autre sujet dans la fidélité aux réunions. Luc chapitre 4, on le lit ensemble? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16. Et après, on ira le verset bien connu qui concerne cela. Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth. Le « il », c'est Jésus. Où il avait été élevé et selon son habitude ou sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Jésus allait tous les samedis à la synagogue. Il était fidèle à sa synagogue. Intéressant, ça. Alors, est-ce que nous allons faire autrement que le maître? En tant qu'homme, le Fils de Dieu était attaché à une synagogue à laquelle il participait tous les samedis, tous les sabbats. La fidélité aux réunions, c'est vraiment important, bien-aimé. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne seule. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne indépendant. Nous avons besoin de l'Église. Et pour grandir et nous fortifier, besoin des réunions de l'Assemblée. N'abandonnez pas votre Assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10, verset 25. Et en fait, ce n'est pas « n'abandonnez pas l'Église locale ». Souvent, on comprend mal ce verset. Dans le grec, c'est plutôt « n'attendez pas le rassemblement de vous-même ». N'abandonnez pas, pardon, le rassemblement de vous-même, c'est-à-dire les réunions. Ne pas abandonner les réunions. Parce qu'on peut rester membre officiel de l'Église locale et dire « mais moi, j'abandonne pas mon Église » et pourtant délaisser les réunions. Et ce texte, c'est plutôt pour dire de ne pas délaisser les réunions. Venez à toutes les réunions que vous pouvez. Entretenez votre piété. Attachez-vous à l'Assemblée. La fidélité, c'est différent de la fidélisation. Qu'est-ce que la fidélisation repose sur l'intérêt personnel. Par exemple, alors c'est peut-être plus parfois la mère au foyer qui aime bien avoir des cartes pour les magasins parce qu'il y a un intérêt. Quand on nous propose au guichet, à la caisse, est-ce que vous voulez faire la carte? Ben, le réflexe parfois c'est de dire qu'est-ce que je gagne? Expliquez-moi, qu'est-ce que je gagne? Et si la réponse est intéressante, on va faire la carte. On est fidélisé. Ça, c'est la fidélisation. Ça repose sur notre intérêt personnel. Qu'est-ce qu'on a à gagner? La fidélité, elle, c'est plutôt le contraire. Ça demande de l'effort, ça demande un renoncement. Alors, j'ai regardé dans le Robert, fidéliser, ça veut dire rendre le consommateur attaché à un produit. Rendre le consommateur attaché à un produit. Vous savez que nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des adorateurs. Amen. L'esprit du monde, c'est l'esprit de consommation. C'est souvent quand on dit « il faut qu'un chrétien rejette le monde, le monde, le monde ». Le monde, c'est très général. Qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans? Il y a beaucoup de choses. Mais entre autres, le monde, c'est être consommateur. C'est avoir l'esprit de consommation plutôt que l'esprit d'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est se prosterner devant Dieu. C'est craindre Dieu. C'est réaliser sa majesté. C'est se soumettre à lui. L'esprit de l'adorateur, c'est d'obéir à Dieu. L'esprit du consommateur, c'est que tout obéisse à ses plaisirs, besoins, pulsion. C'est à l'inverse. Alors, un chrétien consommateur, ce sera un chrétien qui se demandera « Quelle est l'offre de mon Église ?» Eh oui. Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'il y a ces activités? Il y a des églises qui proposent au rez-de-chaussée cinéma, café, au premier étage, salle de musculation, billard, etc., etc. Alors, bien sûr, on va en rire. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Oui, ça, c'est peut-être gros. Mais faisons attention de ne pas nous attacher à l'Église à condition qu'elle nous donne ce qu'on aime. Parce que là, ce n'est pas être adorateur, c'est être consommateur. Quel est le critère pour le choix d'une bonne assemblée? Ce serait étonnant de découvrir les véritables réponses parfois, je crois. Alors comme on est dans cette société de consommation et que cela a influencé et gagné l'Église, il y a parfois même des églises qui organisent des questionnaires et on les distribue dans les rangs. Quelle église aimeriez-vous? Que voudriez-vous qu'il se passe dans l'Église? Que manque-t-il dans l'Église? Et toute une série de questions pour avoir l'Église comme on l'aime. La question n'est pas du tout de savoir si c'est l'Église comme Dieu l'aime, mais si l'Église nous plaît. On est dans la fidélisation là. D'ailleurs, ce sont des techniques que l'on peut rencontrer dans le monde commercial.
des techniques qui se ressemblent beaucoup.
On peut parler de la consommation, alors j'allais dire la consommation spirituelle, mais ce n'est pas spirituel. Donc je dirais la consommation religieuse sur le web. Un chrétien consommateur, c'est, il va avoir beaucoup de messages, de vidéos, même chrétien. Mais il va très peu prier lui-même, lire la parole lui-même. Actuellement, votre piété, c'est de la consommation ou de l'adoration? Quel temps passez-vous seul avec le Seigneur? On peut passer des heures sur Internet à se gaver de trucs chrétiens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est l'esprit de consommation. Nous avons besoin d'avoir un contact personnel et réel, direct avec Dieu. Amen. Direct. Parce que via le net, c'est dommage parce que Jésus-Christ est mort pour nous amener directement à Dieu. Et nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire. Et pour certains, ils ne le réalisent pas. Certains, l'intermédiaire, c'est le curé dans l'Église catholique. Mais d'autres, leur intermédiaire dans leur foi, c'est parfois le web. C'est là qu'ils se nourrissent. Nourrissons-nous de Jésus-Christ dans une communion personnelle avec lui. Amen. C'est peut-être moins mâché, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça sera plus sincère, réel, profond, et ça portera beaucoup plus de fruits dans nos vies. Amen. Non, écoutez 10 000 messages, ça sert à quoi? Je suis prédicateur, hein, mais à quoi ça sert d'écouter en boucle des messages? Ayez plutôt une piété personnelle avec le Seigneur. Amen. Hein, autrefois, une de mes passions, c'était la musique. La musique. Et des fois, je me surprends d'écouter la musique chrétienne comme parfois j'écoutais la musique du monde, en bruit de fond ou comme cela. Et est-ce qu'on chante à la maison? On consomme de la musique. On consomme du chant. Mais est-ce qu'on chante le Seigneur? C'est beau quand on rentre dans une maison et on entend la maman ou le papa chanter des cantiques. Alléluia! C'est magnifique ça! Mais maintenant on a tellement de technologie qui nous permet de tout avoir sans trop d'efforts qu'on n'entend plus forcément l'expression de la piété. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus avoir d'internet, qu'il ne faut plus écouter de musique, vous comprenez? C'est l'esprit de consommation. Et je crois qu'on est plus touché qu'on ne le pense. La nouvelle Église est celle de la consommation qui est faite pour plaire et satisfaire les clients. Ce sont des clients, ce ne sont plus des chrétiens fidèles. Ce sont des clients évangéliques. À notre sujet, la fidélité dans le service de Dieu. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Oui, c'est à des hommes fidèles qu'il nous faut confier le service de Dieu. Alors ici, des hommes fidèles, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de notions dans le mot fidélité, rapidement. Constance, résistance, résilience, puisque c'est un mot plus à la mode actuellement, mais aussi fidélité, c'est véracité. Quand on dit c'est une fidèle traduction, ça veut dire que c'est une traduction exacte, avec de la véracité. Puis dans la fidélité, il y a aussi une notion de loyauté et aussi de fiabilité. Ce texte, par exemple, est traduit par des traductions plus modernes, des hommes non pas fidèles, mais des hommes dignes de confiance. Le mot hébreu, paraît-il, qui est traduit par fidélité, voudrait dire avant tout solide, solidité. Des hommes fidèles, c'est des gens fidèles, des chrétiens solides. Amen. Des gens solides, des gens loyaux, oui, sur qui on peut compter. Amen. Il faut que nous soyons ce genre de chrétiens, que nous puissions compter les uns sur les autres, goûter à de la loyauté. Comment allons-nous nous faire confiance les uns les autres si nous ne sommes pas loyaux les uns envers les autres? Amen. Le mot fidèle dans le Nouveau Testament est apparenté au mot croyant, pistis, pistos. Le fidèle, d'ailleurs, dans la définition de ce mot grec, premièrement, ça veut dire sûr, loyal, fidèle, notamment dans les affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs officiels. Voilà. Mais le deuxième sens, c'est facilement persuadé. Donc fidèle, c'est d'abord être loyal, sûr, solide. Mais deuxièmement, c'est facilement persuadé, c'est-à-dire croyant. Croyant. On va terminer avec la fidélité de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu est fidèle, nous n'avons pas à craindre. Amen. Parce que quoi que nous ayons à passer comme difficulté, il y a une porte de sortie que Dieu prépare toujours. On parle de la fidélité, le chrétien est fidèle, mais bien sûr, honnêtement, grâce à Dieu, grâce à la fidélité de Dieu. Sans sa fidélité, nous ne serions pas ici ce matin. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est dans sa nature profonde d'être fidèle. Alléluia. Et pour terminer, quelques passages sur la fidélité de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. Parce que vous savez, le danger dans la vie chrétienne, c'est d'être conscient de nos devoirs, mais sans regarder à Jésus-Christ. Et là, on retombe dans une façon de fonctionner qui ressemble à celle de la loi. Oui, nous sommes appelés à cette fidélité conjugale, cette fidélité à l'église locale. Mais nous ne trouverons pas ces choses en nous-mêmes, nous les trouverons en Jésus-Christ. En regardant à lui, en croyant en lui, alors ce qu'il est par l'Esprit se communiquera à ce que nous sommes. Amen. C'est pour ça qu'on termine le message en regardant Jésus-Christ. Parce que ça va vous donner des forces pour être fidèles. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire, le témoin fidèle? Bien sûr, ça veut dire le témoin qui a dit la vérité. Le témoin qui a été fidèle dans ce qu'il avait entendu du Père. Mais juste après, il est dit, le premier-né d'entre les morts. C'est le témoin qui a été fidèle jusqu'à accepter de mourir à cause de la vérité. Amen. N'oublions jamais qu'à cause de sa fidélité, Christ a été crucifié. Et notre fidélité sera récompensée par Dieu. Mais l'objet, par contre, de l'opposition des hommes. Christ est le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts. Amen. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Voilà ce qui est dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Oui, le Seigneur est fidèle pour nous pardonner. Amen. Il est loyal, il est sûr, il est solide. On peut compter sur lui. Soyons fidèles aussi peut-être pour pardonner aux autres. Amen. La fidélité de Jésus-Christ nous est assurée pour le pardon de nos péchés. Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi tout cela ? Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Vous comprenez ce passage ? Ça veut dire qu'il y a d'abord la miséricorde envers pour nous et la fidélité envers Dieu. Il a été fait souverain sacrificateur, mais en étant humain, pour qu'il ait de la compréhension à notre égard, il soit un souverain sacrificateur miséricordieux, premier élément. Et le deuxième élément, fidèle dans le service de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il nous comprend. C'est vrai qu'il s'est fait homme pour nous comprendre. Mais il n'y a pas que cet aspect. Christ aussi a été parfait dans sa relation avec Dieu. Il a été fidèle dans le service de Dieu. Littéralement, fidèle pros théos, c'est-à-dire fidèle vers Dieu. Fidèle vers Dieu. Et ça, c'est le fondement de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés seulement parce que Christ nous comprend, mais nous sommes sauvés parce que Christ a été sans péché, il a été parfaitement fidèle vers Dieu. Et il y a en lui la réunion de la miséricorde et de la parfaite fidélité. Alléluia. Un dernier passage, Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Quand Jésus reviendra, parce que c'est de son retour dont il est question ici, nous verrons son nom fidèle et véritable. Alléluia. Il est fidèle jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle pour revenir nous chercher. Il ne nous a pas oubliés. Il est loyal envers nous tous. Il a dit qu'il s'en irait préparer une place et qu'il reviendrait nous chercher. Jésus vient bientôt et il est fidèle et véritable. En définitive, si je comprends bien, les chrétiens, portent le même nom que leur sauveur. Nous sommes les fidèles et il est le fidèle. Dieu soit béni. Oui, bien-aimés, je sais qu'on est dans un monde aux antipodes de ce que je vous ai partagé, mais l'Église doit être belle pour son Seigneur, purifiée, et nous voudrions revenir à ce que Dieu nous demande, être un chrétien fidèle, solide, sur qui Dieu peut compter, l'Église peut compter, parce que nous pouvons compter toujours sur la fidélité de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avant que notre frère nous fasse chanter un cantique, quelqu'un pourrait prier pour la parole de Dieu dans nos cœurs qui a été entendue. Merci.